France Info.
Bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Michel Serres, la semaine passée, nous parlions d'attendre et vous nous rappeliez la femme de marin qui autrefois attendait le retour avec angoisse. Aujourd'hui, on clique et on sait. Cette semaine, l'eau. Point besoin de gloser, l'eau est au cœur de la vie. L'eau, c'est nous, 90% d'eau dans le corps humain. L'eau, c'est la guerre et la paix, car en manquer est insupportable et en priver l'autre est un pouvoir inique. Mais elle est le constituant de la vie sur notre planète où rien ne se perd et rien ne se crée. L'eau ne disparaît pas, juste l'eau est inéquitablement partagée sur Terre et l'eau se pollue, d'où le besoin de l'économiser. Déserts et régions inondées vivent selon des règles bien différentes, comme les cités lacustres où l'eau protège. L'eau se partage, comme il y a les lignes de partage des eaux. Alors Michel, n'oublions pas de trinquer avec l'eau qui ne peut manquer dans notre anisette, de l'eau douce bien sûr.
Vous le savez assurément, il y a deux sortes d'eau, l'eau douce et l'eau salée. Et lorsqu'on dit marin d'eau douce, c'est toujours avec une nuance de mépris. Le marin de haute mer méprise un peu, bien entendu, le marin d'eau douce. Il se trouve que par hasard, j'ai fait les deux métiers et je dois dire que par 4000 mètres de fond, mer plate, vent nul et visibilité infinie jusqu'à l'horizon, le veilleur et l'officier de quart peuvent dormir d'un œil. Alors que le marin d'eau douce est obligé de faire attention à des effets inconnus qui sont les effets de petit fond, parce que le fond change sans arrêt. Il doit faire attention aux rives qui ne sont pas les mêmes nulle part. Il faut qu'il fasse attention aux graviers aléatoires qui scandent le cours du fleuve.
Les méandres, les cingles.
Et puis surtout, les contre-courants, des tourbillons, des contre-courants. Il n'y a pas de contre-courants en mer, sauf exception. Et par conséquent, je défends le marin d'eau douce contre le mépris dont il est l'objet.
Le capitaine Haddock
voilà.
S'en souviendra.
Voilà. Mais évidemment, lorsqu'on parle de l'eau, on ne parle pas tout à fait de cette navigation-là. Et donc, je parle de l'eau vraiment, et je commence en disant qu'à un certain moment, vous vous souvenez, M. Boutros-Ghali était président de l'ONU, et il a été invité à une émission de télévision, et il se trouve par hasard que j'étais là présent à la même émission. Et donc, on n'a rien dit à la télévision comme d'habitude, mais nous sommes restés une heure ensemble. Je lui ai dit, comment se fait-il que votre assemblée ne parle jamais des questions de l'eau précisément, de l'air justement, du climat, et ainsi de suite. Et il m'a répondu, oui, j'ai ça dans la tête, mais lorsque je parle aux fonctionnaires qui sont devant moi, ils répondent unanimement, je ne suis pas là pour parler de la planète, je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement. Et par conséquent, je conclus de ce que m'a dit Boutros-Ghali que ces assemblées sont internationales, mais ne sont pas mondiales. Et c'est pour ça que j'ai eu une idée que j'ai publiée il y a quelques années où je rêvais d'une institution mondiale qui s'appellerait la WAFEL, W-A-F-E-L, comme les gaufres de nos amis belges, dont chaque lettre serait les initiales de l'eau, de l'air, de la terre, de l'énergie et des vivants. Cette institution-là représenterait justement le monde. Mais évidemment, on se demande qui va représenter le monde. Le monde ne se représente pas tel quel. Et alors là, il y a deux choses que j'avais proposées. La première, c'est de faire de ces objets des sujets de droit. Vous savez que depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout homme a le statut de sujet de droit. Et bien entendu, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'on pourrait aussi dire que les éléments en question, dont l'eau, pourraient être un sujet de droit.
L'eau, l'air,
alors,
le climat.
Tout le monde va dire un objet ne peut pas devenir un sujet. Et pourtant, si vous regardez l'histoire convenablement, vous apercevez que lorsque l'esclave, la femme même, devient un sujet de droit, ils étaient avant considérés comme des objets, comme des outils. Comme si vous voulez, la libération venait du fait que d'un objet, un sujet naissait. Eh bien, c'est le même mouvement, si vous voulez, que je proposais, et j'avais appelé ça le contrat naturel dans un livre qui traite justement d'écologie, mais surtout de droit. Bien entendu, toute la question là est de dire, mais voyons, comment se fait-il que les politiques ne s'occupent jamais du monde. Et la réponse est un peu amusante, à dire, oui, politique, ça vient de police, qui veut dire la ville. Comme si les questions se posaient tout le temps dans ces groupes humains qui s'appellent la ville. Et j'avais l'ambition autrefois de faire toute une histoire en disant ville contre campagne. Et la ville a gagné, bien entendu. Et là, c'est plutôt une sorte de révolte, si vous voulez, des objets. Et maintenant, il y a des pays où il y a un droit, où on peut imaginer qu'on peut trouver, on peut ester en justice et dire qu'il y aurait un procès entre le parc des Pyrénées, par exemple, et des utilisateurs abusifs.
Et se porter partie civile pour le parc des Pyrénées.
Exactement, voilà. Et par conséquent, là, il y a eu un progrès vraiment formidable qui vient, je l'espère, de ce livre, Le Contrat Naturel.
Eh bien, pour Le Contrat Naturel, Michel Serres, merci. Retrouvez Le Sens de l'Info sur franceinfo.fr. À dimanche prochain.